franceinter.com.
On y va pour les 3N, mon cher Alain ?
Avec plaisir.
C'est l'un des arbustes les plus employés pour constituer des haies.
Je serais tenté de dire que il était le plus employé, car Bernadette Chamalaz l'a dit elle-même, qu'elle n'avait pas pour cet arbuste une passion immodérée, car malheureusement, le troène n'est plus à la mode. Et c'est dommage, car cette plante a quantité d'avantages. Il supporte les tailles même sévères, et la floraison bien que discrète embaume l'air délicate. Sentit la floraison d'un troène.
Non, j'avoue.
Eh bien, je vous assure que
pourtant,
c'est vraiment...
Et pourtant, elle s'y connaît.
Et c'est merveilleux. Mais c'est vraiment
vrai
une petite senteur très délicate, qui était d'ailleurs très appréciée par Marie-Antoinette, qui était connue pour avoir un nez particulièrement sensible.
Alors, le troène est très apprécié, mais il était très apprécié plutôt, il faut parler au passé, mais pas seulement pour ses qualités d'ornement, en fait.
Et oui, vous avez raison, le troène possédait, d'après les médecins du XVIe, XVIIe et même XVIIIe siècle, quantité de vertus médicinales. Léonard Fuchs, un médecin allemand né en 1501, qui donnera son nom au fuchsia, écrit, je cite, « que de la fleur, on fait distiller de l'eau qui est bonne au chancre, qui vient au gosier et à la bouche.
Ouais, » c'est charmant. Et on utilise aussi les feuilles ?
Oui, car on leur prête quantité de pouvoir, comme par exemple de guérir les hémorragies ou les diarrhées. C'est de plus en plus charmant, vous
remarquerez. D'accord, c'est bon petit déjeuner. Là, quand même, c'est pas vraiment de la médecine, c'est plus de la croyance.
Ah oui, on est parfois même dans la superstition. Dans le Poitou, on prétendait que... Alors, quand je dis dans le Poitou, il y a plus d'un siècle, bien évidemment. On prétendait, je suis navré, je ne sais pas comment dire autrement que « on ». Vous m'avez perturbé hier. On prétendait que suspendre des branches de troène dans la chambre d'un enfant le guérissait du muguet, non pas la petite fleur, bien sûr. Oui, mais la mycose buccale.
Oui. Alors, qu'en est-il des petites baies ?
Les petites baies noires du troène, si elles sont un régal pour les oiseaux, sont dangereuses pour les hommes et en particulier pour les enfants.
Et d'où vient-il, le troène ?
Alors, il faut savoir qu'il en existe une cinquantaine d'espèces, presque toutes originaires d'Asie et en particulier de Chine.
Presque toutes ?
Oui. Car l'espèce dont j'ai parlé, le troène commun, est lui originaire d'Europe et indigène en France. Sachez enfin que le troène commun, ayant été autrefois très apprécié par les jardiniers, fut introduit très vite sur le continent américain, mais outre-Atlantique comme en France, il est passé de mode.
Il y a une fille qui habite chez moi.
C'est votre vie privée.
Non, c'est Benabar qui chante et dans quelques mois, il va partir en tournée, figurez-vous. On l'écoute avant de prendre la question d'Annie ?
Avec plaisir.
Plusieurs indices m'ont mis la puce à l'oreille, j'ouvre l'œil. Je vais faire une enquête pour en avoir le cœur net, ça m'inquiète. Il y a des détails qui trompent pas, les draps, la couette et la tête oreiller sont plus dépareillés. À côté de mes fringues en boule, il y a des vêtements pliés et repassés. Il y a des détails qui trompent pas. Je crois qu'il y a une fille qui habite chez moi. Deux brosses à dents dans la salle de bain. Du savon sans savon et ses cheveux, c'est certainement pas le mien. Des petits coups bizarres pour parfumer la baignoire. C'est un vrai cauchemar. Quelqu'un a massacré tous mes amis cafards. Dans la cuisine, des sachets de thé, de verveine, de camomille. Un message au répondeur d'une mère qui est pas la mienne. V'là qu'elle s'en prend à ma famille. Y a des détails qui trompent pas. Quelqu'un traître a fait la vaisselle. Où sont mes habitudes, mon ménage trimestriel. J'ouvre le frigo, horreur, mais c'est de la folie. Y a plein de légumes, y a même des fruits. Y a des détails qui trompent pas. Je crois qu'il y a une fille qui habite chez moi. Où sont mes potes qui glandaient devant la télé? Les boîtes de pizza, les paquets de chips éventrés, les mégots de cigarettes écrasés dans les assiettes. ma collection de new look aux oubliettes. Oubliettes. Dans la table de nuit, y a plus de capote, mais de l'aspirine. Y a une fille qui habite chez moi. Y a aussi des bougies contre l'odeur de la nicotine. Y a une fille qui habite chez moi. Y a des détails qui trompent pas. Y a un rideau, y a plus le drapé sur la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu, mais c'est une plante verte. Hein, l'aspirateur est encore chaud. C'est trop, je porte plainte. Je vais l'emmener au labo pour vérifier les empreintes. On dirait que je suis plus célibataire. La coupable, je la tiens, elle est devant moi. Mes taux se resserrent, accrochés au téléphone, assise en tailleur dans une jolie robe à fleurs. Une fille me dit, arrête ton cinéma et le loyer, je le paye autant que toi.
C'est chouette, hein?
Très agréable. Oui.
Vous ne pouvez pas danser, vous ne suivez pas le rythme. Annie habite en Savoie avec son mari, elle en a de la chance. Et son mari lui a offert un laurier rose qu'elle a installé dans un grand pot. Comment le protéger pour passer l'hiver sans dommages? C'est une question. Et puis elle vous dit aussi que chaque année, elle s'achète une potée de chrysanthèmes qu'elle replante en pleine terre. Ils sont magnifiques en pleine floraison.
Et elle rajoute également qu'elle embrasse la délicieuse Patricia Martin.
Ça, je ne l'ai pas lu parce que tout le monde s'en fiche.
Je le dis, donc l'occasion de dire à quel point, ma chère Patricia, vous êtes appréciée des auditeurs.
Alors, que répond-on à Annie?
Que déjà, pour les chrysanthèmes, c'est exact. Petit conseil pour tous ceux qui vont encore acheter des chrysanthèmes. Il existe deux variétés principales de cette fleur dans le commerce. Celle qui offre des petites fleurs, celle qui offre des grosses fleurs. Ouais. Et bien, sachez que celle qui offre des grosses fleurs, souvent, ne résiste pas au gel, alors que la petite est vivace et pourra donc ainsi être réutilisée l'année suivante. Donc, notre auditrice a parfaitement raison à propos des chrysanthèmes. Pour ce qui est maintenant...
Du laurier rose.
Le laurier rose en pot va bien évidemment souffrir du froid, surtout s'il vit en Savoie. Donc, la première chose à faire dès maintenant, c'est de
surtout
protéger...
Surtout que l'hiver sera très rigoureux.
Très rigoureux, mais vous verrez que on en reparlera. L'idéal est donc déjà de protéger le pot, parce que je vous rappelle que juste de l'autre côté de la terre, il y a les racines. Et les racines sont sensibles au froid, donc on emmaillote maintenant le pot, on n'attend pas la catastrophe. On ne commet pas l'erreur de rentrer le laurier rose dans une pièce chauffée. Choc thermique, la plante n'y survivrait pas. Si on dispose d'une véranda, c'est l'idéal. On peut l'entreposer dans une pièce à condition qu'elle soit à peine chauffée, mais quand je dis à peine, quelques degrés seulement, et surtout qu'elle soit lumineuse. Si on ne peut pas rentrer le pot, que fait-on?
On ne peut pas pailler?
Alors, on paille à la base du laurier rose, on réduit d'un tiers le feuillage, donc on en profite pour le rabattre quelque peu, et on entoure la plante uniquement quand les températures sont négatives d'une toile en polypropylène que l'on trouve dans toutes les bonnes jardineries. À défaut, on peut jeter dessus...
Mais pas le dimanche. Non. Ou alors il faut que...
Oui, le magasin le dimanche. J'aurais préféré qu'on oublie cet épisode regrettable de mes prestations radiophoniques. Donc, on peut même prévoir une couverture et que l'on jettera sur la plante les jours de grand froid. Je le disais hier, il vaut mieux priver la plante de lumière pendant quelques jours plutôt que de l'exposer au froid. Ouais. Mais il faut aussi rester parfois raisonnable. Quand on habite dans des régions où les hivers sont rudes, autant choisir des végétaux qui résistent, comment dire, avec plus de résistance.
Par exemple,
parce que y a quantité de plantes. Moi, je dis toujours qu'il faut privilégier le régionalisme végétal. Il y a des plantes qui vivent très bien dans les régions montagneuses, d'autres qui préfèrent les plaines, d'autres qui préfèrent le bord de mer. Essayons d'adapter les plantes au climat pour éviter justement les désagréments. Et puis, un autre petit détail au niveau du laurier rose, n'oubliez pas que cette plante est une plante, comment dire, qui peut présenter des... Comment expliquer
ça? Vous ne trouvez pas le mot, mais c'est bien difficile de vous le dire.
Non, c'est une plante qui peut provoquer des allergies.
Ah,
donc quand, oui, tout à fait.
Oui,
parce qu'il y a très longtemps, le dieu Apollon ne cessait de poursuivre la malheureuse Daphné, qui s'est transformée pour échapper au dieu, justement, grâce à l'intervention de son papa, en laurier rose. Et donc, les feuilles sont toxiques.
C'est pour ça.
Pas qu'Apollon en profite, mais avec les feuilles. Donc, les feuilles sont toxiques. Non, très très bien. Mais je pense qu'un petit peu de mythologie intéresse aussi les auditeurs.
Ah, mais c'est passionnant.
Et qu'ils sachent que donc le laurier rose est la réincarnation de la petite Daphné qui souffrait de pression sexuelle trop forte du dieu Apollon.
Ronan a fait germer un noyau d'abricot fin août qui a poussé et atteint 3 cm. Cette pousse est devenue marron et seules les deux feuilles du haut sont encore vertes. Est-ce l'effet de l'automne?
Logique. Les côtiers mélédons, ce sont des toutes petites feuilles qui sont en fait des réserves qui sont directement produites par la graine. Celles-ci vont mourir et ce sont les vraies feuilles qui apparaissent ensuite. Donc, au début, les feuilles les plus basses, qui ne ressemblent en rien d'ailleurs aux feuilles de la plante, eh bien, vont mourir et seules celles qui restent vont pouvoir verdir.
Vos conseils sont en général fort judicieux, mon cher Alain Baraton. Alors, ce matin, tout particulièrement, c'est une petite merveille que
oui,
vous avez entre
perle,
les mains.
Effectivement, une perle. Le titre de l'ouvrage, Plante de poilu, La fleur et le fusil en 14-18.
Très, très beau livre.
Ouvrage signé de Denis Richard qui rappelle l'importance du végétal lors de la Grande Guerre. Il rappelle que les plantes ont été utiles. Il donne des exemples comme les faux arbres qui permettaient de se glisser dans le tronc et d'observer discrètement. Et on parle également, bien sûr, de toutes les plantes de chrysanthème. Et puis à la fin, le poilu Stanislas Poirot, qui avait fait un herbier. L'herbier est intégralement reproduit. Un ouvrage très beau, très instructif, très émouvant également. C'est véritablement une vraie, vraie petite perle. Il coûte 19,50 €. Il est publié par Plume de Carotte. Très, très bel ouvrage. Vraiment là, c'est vraiment un des plus beaux que j'ai eu depuis bien longtemps.
Merci beaucoup Alain Baraton. Bonne semaine.
À vous aussi,
samedi prochain.